RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous et bienvenue à Toulouse au terme de la 11e étape de ce Tour de France. Quelle étape incroyable encore une fois aujourd'hui. La preuve que ces étapes de baroudeurs sont parfois plus intéressantes que celles de haute montagne, même si on attend évidemment le grand spectacle demain. La bataille a été de tous les instants, depuis le kilomètre zéro jusqu'à la ligne d'arrivée à Toulouse. Une échappée lancée de main de maître par un certain Abrahamsen qui, 156 km et 800 mètres plus loin, a donc remporté cette étape. On y reviendra évidemment. On reviendra également sur le formidable travail de Mathieu Van Der Poel qui une nouvelle fois nous a fait vibrer. Aujourd'hui, il termine à 7 petites secondes seulement du duo de tête. Mais on va commencer dans un instant sur le fait du jour et cette incroyable chute du cadeau des cadeaux. Tadej Pogacar, jeté à terre à quelques kilomètres de l'arrivée, qui s'est relevé, qui avait quand même 25 secondes de retard, mais qui a été attendu par ses rivaux, et notamment Vingegaard et Evenepoel. Bref, on s'est régalé aujourd'hui dans cette 11e étape qui a tenu toutes ses promesses et même un peu plus. C'était tout à l'heure dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Eh bien, écoute, moi je vais miser sur Sandro Meurisse. Hein.
Bon, d'accord. Il est coté à 40, hein, il fait partie des favoris.
Comment tu l'as sorti de ton chapeau
De l'analyse et de l'analyse. On est dans un moment très important de ce Tour de France puisque Vingegaard et Benili viennent de rejoindre ce groupe de contre et que Tadej Pogacar n'est pas là pour l'instant. Remco Evenepoel derrière.
Étape de folie.
Alors, Tadej Pogacar qui a encore pris une cassure, qui est encore obligé de faire l'effort pour reboucher un trou sur le groupe Remco Evenepoel.
Ouais, mais il n'est pas impérial, Marc Madiot.
Non, il n'a pas l'air d'être aérien.
Toujours 5 hommes en tête. Fred Wright, Mauro Schmidt, Davide Ballerini, Jonas Abrahamsen et le français Mathieu Burgodoa. Attaque de Mathieu Van Der Poel dans le groupe de Wan avec Wout Van Aert. C'est lui qui place une attaque pour essayer de revenir d'abord sur Fred Wright, ensuite sur Quinn Simons et sur Mathieu Burgodoa. Attaque de Vingegaard. Vingegaard qui attaque là dans les derniers hectomètres de la côte
avec Evenepoel. Evenepoel directement dans la roue et Tadej Pogacar.
Une chute du côté de
Tadej Pogacar au sol. Tadej Pogacar vient de chuter.
Ouais, avec un saut de chaîne. Attention, parce que Tadej Pogacar ne peut pas être aidé pour le moment. C'est de la voiture Shimano qui s'est relancé. Tadej Pogacar va pouvoir se relancer.
Il attend. Il attend. Fair play.
Ah, c'est pas possible. Il y a du suspense. Il se passe des choses. Et le peloton met le frein à main pour attendre Tadej Pogacar. Mathieu Van Der Poel ne reviendra pas. Ça sera très certainement la victoire pour Jonas Abrahamsen qui accélère. Mauro Schmidt n'est pas très loin. Ça va quand même être une bagarre alors qu'il y a un supporter qui vient de rentrer sur la piste. Et c'est victoire de Jonas Abrahamsen. Mathieu Van Der Poel termine 3e.
RMC, l'After Tour.
Voilà, un supporter, c'était pas vraiment un supporter, Pierre-Yves. Hein. C'était un
quelle
manifestant
étape de folie.
Qui s'est fait plaquer à la Toulouse.
Très beau plaquage.
Magnifique.
À la limite des 22.
C'est Stéphane Bourri, c'est ça?
Stéphane Bourri, qui a placé ce plaquage magnifique.
Voilà. Ouais. Il l'a envoyé dans les balustrades. Je pense qu'il va passer une mauvaise soirée, quand même, ce garçon-là. On va pas dire pourquoi il était là. De toute façon, on s'en fiche.
Il était là pour faire chier.
Avant de revenir sur la victoire de Jonas Abrahamsen et la formidable bagarre entre les deux groupes d'échappés, on va donc revenir sur le fait du jour, à savoir la chute de Pogacar, qui a vraiment.
Tu sais que l'étape est tellement folle que tu as même pas présenté nos consultants.
Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Bah, on les connaît.
Les auditeurs qui viennent se brancher.
Jekyll et Jekyll. Jérôme Pinault, Jérôme Coppel.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Et on a même Julien, fidèle auditeur, qui vient nous rendre visite aujourd'hui dans le camion.
Le président du fan club.
Avec une très belle casquette.
Non, pas... La casquette du Stade Toulousain. Bah, forcément, quand on est à Toulouse, on est supporter du Stade Toulousain. Alors, raconte-nous
aujourd'hui,
ce qui s'est
pas
passé
une casquette, c'est
tout
un casque
à l'heure.
Qu'il fallait.
Un casque, ouais. Heureusement qu'il avait le casque. Tadej Pogacar qui a vraiment passé une journée compliquée. On l'a entendu dans le replay. Il a d'abord été pris dans des cassures. Il a réussi à revenir. Il ne s'est pas aérien. Et puis, dans le final de cette étape, victime d'une chute, on a bien failli assister à un fait de course incroyable. Et peut-être même que le tour aurait pu basculer aujourd'hui, Pierre-Yves.
Exactement. Nous sommes à moins de 4 km
tête de l'arrivée pour le groupe Maillot Jaune. Kevin Vauclin et Oscar Honnelet décident d'attaquer sur la droite de la route, suivi par Ilan Van Wilder de l'équipe Soudal. Tobias Johannessen, leader de l'équipe Uno-X, décide lui de suivre cette attaque. Il double Pogacar par la gauche et lui coupe la route en passant devant lui. Le Slovène, qui à ce moment-là ne peut deviner la manœuvre, est déséquilibré, littéralement fauché. Il se couche avec son vélo sur le flanc gauche, déchausse le pied droit puis le pied gauche, tout en glissant vers le trottoir à proximité. Le Slovène a la lucidité de relever la tête, même si le casque le protège. Il se relève à la vitesse de l'éclair. Il s'est passé 12 secondes. Poggi est dépanné par le mécanicien de la moto neutre qui remet sa chaîne et l'aide à repartir. Il s'est encore passé 14 secondes. Tadej Pogacar se relance et recolle à un premier groupe à 3,7 km de l'arrivée. Devant, Ilan Van Wilder de l'équipe Soudal entend « stop, stop, stop » dans l'oreillette. Son leader Remco Evenepoel vient de décider d'attendre le champion du monde. Tout le monde décide d'arrêter, puisque c'est le cas aussi de Benili qui déclarera après « je suis allé voir Jonas Vingegaard ». Il m'a dit, on attend, il y avait un consensus. Le suspense, à ce moment-là, s'arrête et la course repart.
Alors, on va revenir dans quelques instants sur cette histoire. Fallait-il, ne fallait-il pas attendre Pogacar ? En tout cas, une chose est certaine, il s'est fait peur aujourd'hui, Tadej, avec une sale journée. Ça arrive de temps en temps sur la route du Tour. Oui, Jérôme, tu fais une drôle de
note. Non, je voulais juste ajouter qu'aujourd'hui, c'était une étape pour sprinter avec 50 points à l'arrivée pour le maillot vert, mais il n'y avait pas cette fameuse sprint zone à 5 bornes. C'est aussi pour ça, oui, qu'on débat aujourd'hui. Parce que dans une arrivée dite pour sprint, normalement, il y a 50 points au vainqueur, mmh, et il y a une zone de sprint. C'est-à-dire qu'à 5 km, on arrête les temps. Et les temps sont figés par rapport au groupe dans lequel on se trouve. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Bah si, en fait, les temps étaient figés, là, apparemment.
Bah, ils ont figé les temps, mais le règlement n'avait pas figé les temps.
Donc il n'y a pas besoin de règlement, en fait.
Bah, il faut s'adapter au règlement quand on est fair play.
Alors, on va débattre. Je sais que Pierre-Yves est très remonté sur l'attitude du peloton.
Non, mais il n'y a pas que moi. J'arrête pas de recevoir des messages. Il suffit de voir ce qui se passe. À peine, mais presque.
En tout cas, de la région de Nantes, déjà pas
non,
mal.
Non, pas seulement.
C'est la plus importante. C'est
non, mais bon, il n'y a pas de souci. On va battre.
On va en débattre. Je sens qu'il a des arguments béton. Tout d'abord, on va écouter Poggi, le cador des cadors, qui a donc chuté aujourd'hui, qui s'est retrouvé à terre et qui s'est fait peur. Vous allez l'entendre, il n'y avait pas la voix des grands jours quand même, hein, sitôt la ligne d'arrivée franchie. Tadej Pogacar.
Je suis plutôt bien, un peu épuisé, mais nous avons vécu des jours pires. J'ai eu un petit crash à la fin et grâce au peloton devant, je n'ai pas perdu de temps. Un grand respect à tout le monde devant et merci pour votre soutien. Concernant la chute, tout le monde était un peu bloqué. Matteo et Jonas ont commencé à attaquer, les gens ont commencé à suivre. Malheureusement, un coureur a décidé de suivre de gauche à droite. Je ne sais pas, il ne m'a pas vu. Il m'a coupé la route complètement devant mon pneu avant et j'ai chuté. On verra demain comment je récupère. Normalement, le jour après une chute, tu n'es jamais le meilleur. Je ferai de mon mieux demain et on verra.
Voilà, Tadej Pogacar, pas la voix des grands jours, hein, je le disais juste avant qu'on l'écoute.
On peut le comprendre.
Il est groggy.
Il
fait peur.
Je pense que quand il répond à cette interview, il sait même pas vraiment ce qu'il a. Je sais même pas s'il a déjà fait l'état des lieux. Il voit que tout bouge à peu près, qu'il a pu remonter sur le vélo, qu'il a pas perdu de temps. La journée est plus ou moins sauvée, mais la veille d'une grande étape de montagne, quand tu te pluches à la vitesse où il est tombé, son tour aurait pu se terminer aujourd'hui. Clairement, on parle même pas d'une perte de temps, rien du tout. Parce que quand on le voit arriver sur ce terre-plein, là, avec le trottoir, la tête en avant, il a le réflexe de lever la tête, tu l'as dit Pierre-Yves, si ça tape la tête là, c'est bah voilà, protocole commotion, etc., etc., et peut-être que le tour est terminé. Il a de la chance de rien se casser, mais depuis le départ de l'étape, on l'avait pas senti vraiment dans son étape, Tadej Pogacar. Je sais pas si c'était mal digéré la journée de repos, il a l'habitude, ça m'étonnerait quand même qu'il sache pas gérer ses journées de repos, le Slovène, mais il s'est fait piéger trois fois quand même en début d'étape.
Il a couru à l'arrière, beaucoup à l'arrière.
Il y avait des grappes de 50 devant quand lui il était piégé derrière, alors que d'habitude il est toujours dans les 20 ou 30 premiers du peloton. Et quand t'as une castagne comme ça du début à la fin, c'est surprenant de la part du Slovène. Et finalement, bah, la chute, ça vient conclure une journée un peu compliquée pour lui.
On va pas dire que l'absence de João Almeida est préjudiciable à ce moment-là, parce que c'est pas celui qui se place le mieux.
Non, lui, il aurait été en queue de laser dès le début.
Mais malgré tout, ça fait partie du lot, entre guillemets, de ces 10 premières étapes. Bah, je pense que ça trotte toujours un petit peu.
Ça fait quelques étapes. Il y a eu Joao Almeida, il y a Marc Soler, qui était au sol. Rien de grave, mais il a quand même été au sol.
Sivakov
qui était malade. Tadej Pogacar qui tombe maintenant. Alors Sivakov, ça va mieux. On l'a vu pendant l'étape. Il a l'air de s'être bien retapé, le français. Mais ça, plus ça, plus ça, plus Visma Lisebike qui les harcèle tout le temps. Donc ils sont jamais vraiment sereins. Ouais, ça, plus ça, plus ça. On verra ce qui va se passer dans le Triptyque Pyrénées, bien sûr.
On cherche la petite bête quand même. On cherche le moindre petit grain de sable.
Parce que ça relance pas du suspense.
Souvent, le Tour de France peut se jouer sur un grain de sable.
Bien sûr.
Ah, puis en plus, Jérôme le dit très bien. Il répond très vite à la presse pour pouvoir désamorcer l'éventuelle pression et les choses qui pourraient sortir. Sauf qu'il saura vraiment ce qu'il a ce soir après le massage, voire demain matin au réveil, parce que après une chute comme celle-ci, les courbatures, elles arrivent après la douche, ça brûle. On va faire les pansements, il va devoir passer une nuit là-dessus, et seulement demain, il aura les douleurs, et peut-être là, le poignet, le coude, ça a tapé fort sur la hanche aussi, on a vu aller au sol sur le côté. Tout ça va se réveiller demain matin, et pour les premiers coups de pédale, c'est là qu'il verra si ça va ou pas. Ça ne peut pas être sans conséquences, de toute façon, même pour le meilleur coureur du monde, une chute, c'est toujours quelque chose qui est difficile à digérer.
Ouais, alors le Tour n'a pas basculé aujourd'hui, mais dans les 48 heures qui viennent, on rappelle qu'on entre dans les Pyrénées à partir de demain, qu'il y a un triptyque pyrénéen quand même copieux pour les coureurs. C'est vraiment le pire moment pour se cracher.
Exactement. Alors, il n'y a jamais de bon moment pour tomber sur le Tour, mais tu sors d'une journée de repos où tu as peut-être vu ta famille, voilà, tu as pu te refaire un petit peu. Première étape, le lendemain de la journée de repos, la veille de la première grande étape de montagne, boum, à 4 km de l'arrivée. Et puis, c'est pas une petite chute, hein. Il avait vraiment gauche complètement râpé. Il le dit lui-même dans l'interview, le lendemain, c'est pas là où on est le mieux, mais c'est plutôt même 48 heures après qu'on est encore pire. 48 heures après, il y aura le chrono, on en parlera tout à l'heure. Là, te plucher et tomber aussi vite, la veille d'un triptyque comme ça, pyrénéen, aussi dur, même mieux. Si tu t'appelles Tadej Pogacar, il doit pas être très très serein.
Ouais, il y a mieux pour aborder le premier grand moment du Tour, parce que pour l'instant, on a vu quelques escarmouches. Le seul moment était important, était contre la montre l'autre jour, autour de Caen. Mais la vraie étape, la vraie première explication entre lui et ses adversaires principaux, si j'arrive encore à dire 16 adversaires, parce qu'il n'en a plus qu'un quasiment, eh bien c'est demain.
Oui, il a même un allié qui s'appelle Remco Evenepoel.
Et il a quelque chose qui s'appelle comme un allié, ou en tout cas quelqu'un qui fera inoffensif envers lui. Mais demain, dans Otakam, on s'attend, toute la France et les gens attendent le premier duel entre Pogacar et Vingegaard. Et il faudra ne pas oublier que Pogacar est tombé aujourd'hui et qu'il n'aura certainement pas toute la possession de ses moyens demain.
Et Tadej Pogacar, quand il est arrivé au départ ce matin, il avait bien sûr un objectif, c'était de ne pas perdre de temps sur Jonas Vingegaard, mais avec l'objectif peut-être demain d'assommer le Tour. Donc lui, il arrive au départ ce matin en disant « Ok, je dois passer cette étape, elle est un peu dangereuse, et à Otakam, je vais prendre ma revanche sur 2022. » Et ce soir, il se retrouve à peut-être devoir aller faire des radios et à se demander comment il ne va pas perdre de temps éventuellement à Otakam si la chute est un peu plus grave que ce qu'on pense. Donc l'état d'esprit, d'un seul coup, mentalement, ça switch. Et de nouveau, la bascule mentale entre Vingegaard et lui.
Et exactement, parce que de l'autre côté, Vingegaard, même s'il n'a repris aucune seconde ce soir, doit quand même se sentir un peu mieux en se disant que Pogacar est diminué et qu'il va peut-être se passer des choses. Bah, si celui-ci est en forme, on l'attendra demain et après-demain.
C'est ça,
et
lui, il a des bons souvenirs, bien sûr, Vingegaard à Otakam. Depuis le début du Tour, il dit « Moi, ça va très bien, à part au chrono, mais sinon, à la pédale, j'ai rien perdu sur Tadej Pogacar. » Et là, il se retrouve avec son principal adversaire qui est pluché de partout la veille des étapes de montagne. Bien sûr qu'il n'est pas heureux que Tadej Pogacar soit tombé, mais ça va peut-être lui donner un petit coup de pouce quand même.
Sachant qu'aujourd'hui, il était en pleine confiance, hein, Jonas Vingegaard.
On l'a vu la première fois attaquer.
Donc, c'est qu'il se sent bien, parce que même si ce n'est qu'une attaque de 25,50 m sur le haut de la dernière difficulté ou de l'avant-dernière.
Il avait attaqué avant.
Il avait aussi attaqué pendant l'étape.
Il s'était
aperçu que Pogacar traînait souvent en queue de peloton. Donc, on a Vingegaard plein de confiance, moins fort peut-être, face à un Pogacar bat avec un peu moins de confiance parce qu'il vient de tomber. Donc demain, on peut avoir une belle étape.
Et c'est vrai que ces derniers jours, on sentait quand même Vingegaard toujours sur la réserve, même s'il est quand même dans le jeu, hein, avec Pogacar, parce qu'il avait peut-être peur de prendre un contre. Là, ça va aussi peut-être lui donner des idées en se disant, si j'essaye pas demain, j'essaierai plus jamais. Quoi,
ah bah hein. c'est certain. Je suis pas sûr qu'avant la chute de Tadej Pogacar, il avait dans l'idée d'attaquer. Bien sûr qu'il voulait attaquer, mais là, il va peut-être attaquer bien avant. Dans Otaka, mais il va peut-être tenter sa chance bien plus loin du sommet de l'arrivée parce que il veut regarder comment Tadej Pogacar va arriver, alors qu'avant il aurait peut-être attendu encore le dernier moment.
Et encore, GG,
ouais,
et encore
en ayant peur peut-être comme que... tu disais que Pogacar le contre et on veut toujours en garder un peu parce que le lendemain il y a le chrono en bosse, etc. Là, l'état d'esprit du Danois, il a dû complètement
avec
changer.
Cette chute, peut-être qu'on va faire évoluer ce fameux plan parce qu'on commence à quand même lire entre les lignes de ce plan. C'est du harcèlement chaque jour. Aujourd'hui, on a encore vu les Visma attaquer. Peut-être que le plan demain, c'était tout simplement on fait attaquer Matteo Jürgensen, on fait du harcèlement sur l'équipe UAE et nous,
oui,
on
donc
suit.
Ils vont continuer à harceler.
Et nous, on suit faut sans dire. Prendre de risque de prendre un contre. Parce que Vingegaard, demain soir, s'il arrive dans la route Pogacar, il pourra encore se targuer de dire il m'a toujours pas lâché.
Mais est-ce que
Sauf que là, comme il est blessé, peut-être que Vingegaard va se dire profitons-en maintenant, il est affaibli, la bête a un genou à terre après sa chute. Essayons de lui reprendre du temps. Et c'est qu'il va falloir enfin pour Visma se dire et si on était plus offensif que ce qu'on avait prévu.
Ils ont été offensifs quand même.
Non, mais alors, avec Vingegaard.
Est-ce que demain, Pogacar prendra la roue de Jürgensen si celui-ci tente de s'échapper? On l'a vu que ces jours derniers, c'était le cas à chaque fois.
Encore
il voulait laisser aucun Visma dangereux pour le classement général s'échapper. Est-ce que demain, justement, il ne va pas falloir faire un jeu d'équipe, une attaque de Jürgensen, une attaque de Vingegaard pour tester Poggi, quoi?
Ah bah, bien sûr, ça c'est ce que la Visma Lisebike doit faire. Maintenant, la réponse, là, on l'a pas. Tadej Pogacar ne l'a pas non plus. Ça va être au fur et à mesure de l'étape qu'il va voir si les jambes tournent, s'il a pas trop de douleur et s'il est capable de suivre et Jürgensen et Jonas Vingegaard. Si la chute a pas trop de conséquences, il est juste un peu courbaturé, il va laisser partir ni Jürgensen ni Vingegaard et peut-être même qu'il essaiera d'en mettre une.
Mais là, il doit faire comme ils avaient fait
exactement.
Au Granon, c'est-à-dire harceler
c'est
avec des attaques. On rappelle qu'ils ont que 20 secondes d'écart en classement général, Jürgensen et Vingegaard.
Ouais, la meilleure des réponses, si Pogacar a récupéré demain à ce harcèlement, c'est qu'à la première attaque de Jürgensen, après certainement un fort tempo, c'est de lui contrer. C'est pif-paf et terminé, on remballe. C'est-à-dire qu'il faut éliminer très vite Jürgensen pour Pogacar et ses boys. S'il y avait eu Joao Almeida, il n'y avait pas de question à se poser.
Oui, c'est ça.
Almeida sur le paletot de Jürgensen et Pogacar sur celui de Vingegaard. Là, demain, s'il est en pleine possession de ses moyens, encore une fois, s'il l'est, la meilleure défense est l'attaque. Donc il va falloir laisser faire l'Américain et le contrer. Et est-ce que Vingegaard sera capable de le suivre? Mais ça, c'est avec des si. Et cette stratégie-là était bonne jusqu'aux 4 km, Pierre-Yves, c'est ça? 4 km de l'arrivée, 3 km 700.
4 km 5, la chute, et il revient, il commence à raccrocher.
Jusqu'à 4 km 500, c'était valable. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr ce soir que la stratégie du côté du AE sera très offensive demain.
Après, on verra, excuse-moi Christophe, mais si Visma vont prendre la course en main eux-mêmes demain, bien avant le Otakam, donc dès le col du Soulor, commencer à faire un gros tempo pour user les coéquipiers de Tadej Pogacar, pour voir comment Tadej Pogacar réagit. Si Visma font un tempo dans le Soulor, il ne va pas sauter Tadej Pogacar, mais ils vont voir au coup de pédale.
Il peut éliminer quelques-uns de ses coéquipiers et voir comment réagit
exactement.
Tadej.
Et eux, ils ont plutôt, l'équipe Visma est plutôt en bonne forme, ils n'ont pas trop de blessés. On voit que Campaners marche très bien, que Van Aert ça va un peu mieux. Le début d'étape n'est pas ultra dur, donc ils vont garder tout le monde jusqu'au Soulor. Là, si tu uses vraiment, tu mets un gros tempo déjà pour éliminer des coéquipiers de Tadej Pogacar, pour voir comment il réagit, s'il tourne bien les jambes, s'il se met beaucoup debout, etc., le faciès, et ensuite tu pourrais éventuellement mettre le coup de grâce dans Otakam via Jürgensen ou Vingegaard.
Il va être surveillé quand même, Poggi. Demain, je pense que les caméras seront braquées sur lui et que les coureurs Visma seront très à l'écoute et très observateurs vis-à-vis du champion du monde. Tout le monde s'est fait peur dans la formation UAE. On va écouter Mauro Gianetti, le manager de l'équipe, qui a récupéré son Tadej, un peu pluché quand même sur le côté, et qui remercie l'attitude du peloton, ce qui ne plaît pas forcément à Pierre-Yves Leroux. On écoute tout de suite Mauro Gianetti.
Le vélo, le cyclisme, les coureurs, les champions, faire les champions, ils ont arrêté Tadej, et ça c'est un signe de respect incroyable. La volonté de se bagarrer sur le vélo, dans la montagne ou dans les contre-la-montre, mais pas dans la malchance. Et donc, chapeau à tous les coureurs qui ont attendu Tadej.
Chapeau aux adversaires de Pogacar qui ont donc décidé de se relever et d'attendre un homme à terre, un homme à terre. Alors, est-ce que sur le direct, on a entendu le coup de gueule de Pierre-Yves. Messieurs, vous vous étiez un peu
partagé.
Circonspect, partagé. Est-ce qu'avec un peu de recul, avec les explications des uns et des autres, quel est votre avis sur le sujet ? Fallait-il l'attendre ou fallait-il attaquer, continuer, sans attaquer, mais continuer sur le même rythme.
Ouais, parce que la course était lancée. Donc, Visma Liesebike, on en a parlé, Jorgensen a essayé, Vingegaard a essayé, donc ça n'aurait pas du tout été choquant. Ils avaient continué après la chute de Tadej Pogacar. On n'aurait pas pu dire oui, ils ont mis en route parce que Tadej Pogacar est tombé. Donc ça, ce côté-là, ça n'aurait pas été choquant du tout. Maintenant, on comprend le côté fair play de dire ok, c'est Tadej Pogacar, il est champion du monde en titre, il est tombé, ça reste un fait de course, mais il est tombé. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que si t'es pas Tadej Pogacar, Tu n'attends pas. Si c'est Jérôme Pinot qui tombe à la place de Tadej Pogacar. Bah,
Jérôme Pinot, il y avait belle lurette, il était plus dans ce groupe.
Exactement. Donc je pense pas qu'on l'aurait attendu. Ça, c'est le seul truc qui me dérange. Maintenant, est-ce que ils auraient eu la même attitude s'ils jouaient la victoire d'étape?
Non.
Je pense pas.
Bah non.
Là, il y avait plus rien à jouer finalement. Tu reprends un petit peu de temps à Tadej Pogacar, mais il n'y avait pas la victoire d'étape à aller chercher. Maintenant, tu as dit, Pierre-Yves, dans ton papier tout à l'heure, qu'il y avait grosso modo une vingtaine de secondes quand la moto neutre a pu remettre
12,
la
chute. Plus 14, 25 secondes.
Disons 25 secondes. Si à Paris, Jonas Vingegaard perd le tour pour moins de 25 secondes, ce qui n'est pas impossible, là, par contre, ils repenseront longtemps à cette étape-là.
Alors, monsieur,
après, on est trop gentil dans
le
vélo.
On peut pas gagner non plus le Tour de France sur chute sur son adversaire principal.
Non, mais il l'aurait pas gagné là-dessus. Il l'aurait pas gagné là-dessus.
Bien sûr, qu'on peut gagner le Tour de France sur chute, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on a attendu Pascal Simon, maillot jaune, qui chute en 1983 et qui allait gagner le Tour de France très certainement?
Non, on l'a pas attendu.
Est-ce que Alberto Contador a attendu Andy Schleck lorsque celui-ci a connu son saut de chaîne dans le port de Balès en 2010?
Ouais, ça fait longtemps que. Enfin, j'ai pas souvenir d'un adversaire qui, sur un fait de course, tu dis Contador, mais encore même plus récent. Moi, j'ai pas souvenir de quelqu'un qui profite d'une situation
puisqu'à
comme ça.
Puisqu'à une époque, parce qu'il y a eu classique. Un parrain dans pas... le peloton
voilà, oui.
Qui s'appelait Lance Armstrong.
Et
qui
nous a volé. Rappelez-vous de Armstrong et Ulrich aussi, la chute de Armstrong en côte.
Ouais, à Luzardigen.
Ulrich décide de se relever aussi.
Et Lance Armstrong,
derrière l'autre, lui met un contre.
Mais c'est à partir de là qu'il y a. Alors, cette règle tacite, elle existe depuis très longtemps, mais c'est vraiment Armstrong qui l'a un peu.
Qui nous vole le vélo
à tout le monde.
Et les grandes aventures, ça fait partie du cyclisme, la chute. Sinon, il ne faut pas courir, il ne faut pas monter sur un vélo. Ça fait partie de la course. Lance Armstrong a volé beaucoup de choses, il a aussi volé ça. Ça fait partie de la course. Et depuis Lance Armstrong, on a décidé que quand le leader ou un grand du peloton chutait, on l'attendait. Mais, ça nous vole une partie du cyclisme aujourd'hui.
Mais là, on parle beaucoup de pourquoi Visma n'a pas roulé. Mais personne n'a roulé. C'est mais pas
à partir
que
du moment où Remco Evenepoel a dit stop, puisque c'est bien Remco Evenepoel qui dit stop, soit tu as un accord et tout le monde stop. À partir du moment où il y a une équipe qui ne le fait pas, là c'est définitivement à dos de tout le monde.
Bien sûr.
Et les coups se paient tôt ou tard. Et Vingegaard n'avait pas d'intérêt à continuer à rouler avec cette
c'était pas cet à lui, c'était pas à lui de mettre ses mecs à la barre et
mais non parce que sinon mais ils se mettent encore plus à dos sachant qu'après
pas terrible
sachant qu'en plus Pogacar était entouré de 4 coéquipiers, il y a une chasse 25 22 21 on arrive à 10 secondes au final tout ça pourquoi pour mettre une bataille complète dès demain et une haine encore plus grande envers les deux équipes. Donc, je te rejoins Pierre-Yves, par contre ça fait partie du vélo. C'est-à-dire que ces grands bonhommes-là ont aussi le droit de se dire on s'attaque pas comme ça.
Donc supprimons les oreillettes. Alors, on aura une vraie course. Tout ce qui se passera
René Bernardo sort
pendant
de son corps.
Tout ce qui se passera pendant la course, eh bien ça fera partie de la course. et les coureurs feront la course.
Mais là, c'est même pas l'oreillette. Il dit stop tout de suite après la chute.
Parce qu'il entend que Pogacar a chuté.
Voilà, il l'a vu. Il transmet le message à l'oreillette parce qu'ils l'ont. Mais sinon, tu montes à l'avant du peloton.
Kevin Vauclin, Oscar Henley, ils sont en train de rouler. T'as beau hurler, ils vont pas entendre. Hein.
Non, mais eux, ils se sont fait reprendre après.
Non, mais il y a Van Wilder qui envoie.
Eux, ils n'allaient pas attendre. Vauclin et Henley, s'ils étaient encore devant, ils n'auraient pas attendu.
Ils
ne sont pas relevés. Parce que Remco Evenepoel derrière a hurlé, hey Kevin, hey Oscar, attendez, parce que Pogacar il est tombé.
Repris. Mais parce que dans toutes les oreillettes, on entend Pogacar a tombé.
Ensuite, ça s'est arrêté. Ils ont été repris.
C'est un vrai débat. S'il continue à rouler fort et que Poggi perd du temps, il y a rien à dire non plus. C'est-à-dire que c'est une décision des coureurs. On était quand même
tombé sur le dos de Contador ce jour-là.
Bien sûr, justement.
Dans le port de Balasse, tout le monde lui était tombé dessus en disant c'est un scandale de faire ça. D'attaquer un mec sur un saut de chaîne.
Le vélo a pas ce truc de, il y a pas
alors
de.
Il
trash
avait attaqué
tôle.
Juste à ce moment-là. Quand même.
Ouais, le scandale, c'est peut-être de mettre grand plateau au port de Balasse. C'est ça, c'est un scandale.
Oui, mais ça, c'était le bœuf. Fameux bœuf.
Bien sûr.
Évidemment.
Mais le bœuf d'Andy Schleck aussi.
Dans le vélo, t'as pas de trash talk, t'as pas de. Ça reste un sport de gentleman encore. T'as encore des codes.
Je suis désolé. Le vélo, un sport de gentleman.
Bah ouais.
On va refaire un autre débat.
Bien sûr. Je suis désolé. Regarde, ça, c'est une règle tacite. Elle est écrite nulle part. Et pourtant, elle se respecte tout le temps.
Alors que Pierre-Yves Leroux est un bad boy, on l'a bien compris. Bien lui, il veut la bagarre. Il veut pas de respect pour les champions.
Tiens, écoutons
Jonas Vingegaard qui regrette pas l'attitude du peloton à ce moment-là.
Il était juste à côté de moi et je l'ai vu tomber. J'espérais d'abord qu'il allait bien. On a attendu pour lui comme on le devait, à mon avis. Quand c'est comme ça, c'est juste un malheur. Il a juste dégagé les roues, donc oui, je pense que c'est la bonne façon de faire.
Voilà, Jonas Vingegaard, donc, qui ne regrette pas l'attitude du peloton, mais qui ce soir doit quand même se sentir un peu plus rasséréné et qui va sans doute tenter quelque chose. On l'espère pour lui, on l'espère pour le suspense de ce Tour de France. 19h27, on revient dans un instant, toujours en direct de Toulouse pour la suite de l'After Tour. On va s'intéresser quand même au vainqueur d'étape, Jonas Abrahamsen, qui a été énorme. On va aussi revenir sur la nouvelle performance malheureuse de Mathieu Van Der Poel, qui nous a encore une fois offert un grand spectacle aujourd'hui, et puis on s'intéressera donc au triptyque pyrénéen qui débute demain. Pas facile à dire.
Pas facile à dire.
19h27 après 6h d'antenne. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
19h32, vous êtes sur RMC, vous avez bien fait, on est ensemble encore pendant une petite demi-heure pour la suite et la fin de l'After Tour après cette formidable 11e étape qui a donc vu le succès de Jonas Abrahamsen, coureur norvégien de la formation Uno X qui a donc choisi de s'échapper dès le kilomètre zéro de cette étape. Il n'était pas tout seul.
C'était l'instant norvégien, ça c'était bien. Mieux que l'histoire en belge, j'ai trouvé, moi.
Très bien. Ça, c'est encore. Sur les réseaux sociaux, c'est très, très partagé quand même.
Forcément.
Et ça va faire parler encore pendant plusieurs jours. Revenons sur le vainqueur d'étape. D'abord sur cette étape, parce qu'on le répète depuis plusieurs jours, les étapes. Alors, ce n'est pas une étape de moyenne montagne, c'est une étape de plaine. Agrémenté d'une côte qui intervient à quelques kilomètres de l'arrivée. Autrement, ça se serait sans doute terminé au sprint, comme c'est souvent le cas à Toulouse. Mais là, formidable trouvaille que cette petite côte.
Oui, mais finalement, c'est pas cette côte qui fait
la différence.
C'est pas passé grand-chose dans cette côte finalement.
C'est le parcours, c'est l'impossibilité pour les sprinteurs.
Sans cette côte,
c'est la côte qui change tout le scénario, c'est la seule que les sprinteurs ne pouvaient absolument pas passer. C'est pour ça
ils
que
le savaient.
Mais c'est juste sur la peur en fait. C'est ça qui est incroyable. Il se passe pas grand-chose dans la côte.
Faut dire qu'elle fait peur la côte.
Ah oui, c'est sûr.
Non mais t'as la peur et les opportunités que ça donne. Est-ce que alors peut-être un mauvais exemple avec Mathieu Van Der Poel, ce qui nous a prouvé à Châteauroux qu'il peut se lancer sur des étapes qui convient pas, mais est-ce qu'un Wout van Aert, est-ce qu'un Mathieu Van Der Poel se serait lancé dans le boulot comme ils ont fait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette côte? S'ils ne se disaient pas, peut-être je peux épailler tout le monde et finir tout seul dans cette côte. Oui, la côte en elle-même, elle n'a peut-être pas fait beaucoup de dégâts, quoique Mathieu Van Der Poel a quand même bien fait du ménage derrière, même c'est si énorme. Ça n'a pas suffi. Mais au moins, elle a proposé à un certain type de coureurs, les meilleurs punchers, même Arnaud Delis, qui est pas vraiment sprinter, même plutôt sprinter qui passe bien.
C'est costaud aujourd'hui, Arnaud Delis.
Ils sont allés à l'avant. Arnaud Delis, si t'as pas cette dernière montée, jamais il va à l'avant. Il reste dans le peloton, il attend le sprint final et il essaye de gagner au sprint. Donc même si ça va pas faire la côte en elle-même des différences, elle a provoqué des mouvements de course. Et du kilomètre zéro, on a dit Abrahamsen est parti, ça a jamais débranché jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein. 48 de moyenne.
L'ensemble du parcours a permis aux échappés de jouer au bras de fer avec le peloton, et le peloton a plié, c'est rare quand on voit ça, c'est-à-dire que jusqu'à ça durait sans borne, et au bout de 100 km on a eu un peloton qui a dit stop, on n'en peut plus, tant pis, on a pour certains pas de coureurs devant. Israël, première tech, a essayé, mais c'était plus une position qu'autre chose. Ben Hill dit très bien dans son interview, Pilou, à la fin, c'était une étape lactique. Nous, on a compris éthique, mais toi, t'as compris lactique. Bon,
éthique.
Bah écoute,
c'était pas éthique,
épique.
Voilà,
c'était.
Personne n'a rien compris, quoi.
Le maillot jaune l'a dit, c'est une des étapes les plus difficiles, ça a roulé très très vite. Et ces étapes-là, finalement.
J'ai perdu quelques années de vie aujourd'hui, quoi.
Ouais, parce que ça n'a pas arrêté. On a vu les leaders piégés, on a vu les sprinteurs essayer d'aller à l'avant dès le kilomètre 3-4, puisque les deux premiers attaquants, c'est les deux premiers sur la ligne d'arrivée. C'est dire si l'étape a été ultra rapide. On a vu toutes sortes de coureurs essayer d'aller à l'avant, des équipes qui attaquaient par deux,
c'était
par trois.
C'était toute la journée.
Et ça a fait une moyenne de fou sur un parcours quand même qui était loin d'être plat, quoi.
Ah ouais, c'était mal plat, comme on dit. Abrahamsen, revenons sur Abrahamsen, un garçon qui a bien failli ne jamais prendre le départ de ce Tour de France. On rappelle qu'il s'est fracturé la clavicule sur le Tour de Belgique, quoi, un mois avant le départ du Tour, c'est ça?
Donnez-moi l'adresse de son médecin.
Ah bah oui,
ouais. Il a déclaré que Abrahamsen avait une guérison aussi rapide qu'un enfant de 11 ans. C'est-à-dire qu'il a été très athée.
Normalement, il faut 8 semaines à peu près pour s'en remettre.
Le lendemain, il était déjà sur le home trainer. Alors la clavicule, c'est une fracture de la clavicule, c'est presque la blessure la plus facile à soigner.
Enfin, non déplacée, hein, on rappelle déplacé. Que c'était une fracture
un
non cycliste, déplacée.
Parce que tu peux retourner sur l'homme trainer, t'as le bras en écharpe ou t'as des anneaux, je sais pas quoi, mais tu peux quand même tourner les jambes sur l'homme trainer. Ce qui gêne, c'est les vibrations si tu vas rouler en extérieur. Donc tu perds pas trop, tu vas perdre en endurance, tu vas pas faire 10 heures sur le
trainer. Tu peux pas plâtrer hein, quand même, hein, sur une fracture comme la clavicule. Non. T'es obligé d'avoir un corset qui tient en arrière.
On rappelle que Abrahamsen est norvégien et que
dans
ce pays-là,
c'est
c'est que le travail sur home trainer, c'est quasiment tout l'hiver.
Bah, bien sûr.
Et donc lui, sur l'home trainer, il sait ce qu'il faut faire et il a l'habitude d'y passer des heures. Ouais. C'est quand même très différent d'un Italien ou d'un Espagnol ou même d'un coureur français parce qu'ils ont cette culture de l'home trainer, les Norvégiens. Et donc, il a su dès le lendemain quoi faire pour revenir. C'est pas revenir pour courir. C'est revenir pour courir, être au niveau du Tour de France et gagner une étape du Tour de France. Et là, on peut en parler pendant des jours et des jours, il n'y a pas beaucoup de coureurs capables de faire ça. Un Norvégien a cet avantage-là. Grand coup de chapeau à son manager général, Thor Hushovd, qui a écarté l'ancien vainqueur du Tour des Flandres, l'ancien porteur du maillot jaune, Alexander Kristoff, pour finalement donner la chance à Abrahamsen. C'est-à-dire qu'ils ont pris le risque d'avoir un coureur qui revenait de blessure et qui prenne le départ du Tour, quitte à sacrifier un sprinter, et ils ont eu le pif parce qu'aujourd'hui, il a démontré qu'il avait toute sa place sur le Tour.
Et on va écouter la joie de Jonas Abrahamsen, donc sitôt la ligne d'arrivée franchie, et il avait un grand sourire, on le comprend.
Je me suis cassé la clavicule il y a un mois en Belgique. J'étais en train de pleurer à l'hôpital car je ne pensais pas que j'allais faire le Tour de France. J'ai fait tout ce que je pouvais pour participer. C'est donc incroyable pour moi d'être ici et en plus de gagner une étape. Schmidt était si fort aujourd'hui depuis le début. J'ai essayé, c'était très difficile de passer, mais j'ai réussi à mettre une roue devant. C'était mon rêve de gagner une étape du Tour de France et c'était juste trop bien.
Abrahamsen, un garçon qui va vraiment à l'encontre des idées reçues dans le vélo, puisque non seulement il arrive à guérir d'une fracture de la clavicule en quelques jours, et en plus c'est un garçon qui a choisi volontairement de prendre du poids, alors que les coureurs cyclistes sont quand même toujours à la recherche de la perte du moindre gramme. Lui, mais c'était pas des grammes en plus, hein, c'était des kilos.
Je pense que Jérôme Pinot pourrait reprendre sa carrière.
Là, il est à mi-chemin, en troisième semaine, il peut gagner une étape du Tour. Là, il est déjà à plus 8.
Maillot jaune.
C'était mais j'y pense. J'étais en train de me toucher la panse. Et j'ai dit, je vais peut-être retourner quand même.
T'as de la marge pour toucher la panse. Maintenant, ça te prend du temps pour faire le sport
facile. Il a pris de la masse. Il a travaillé en musculation. Il s'est étoffé, renforcé. Il n'a pas mangé, il n'a pas eu le régime alimentaire de Christophe Cessieux pendant 6 mois. Il n'a pas fait dame blanche, burger, dame blanche, poisson, viande. Voilà, il n'a pas fait ça. Hein.
Non, mais c'est quand même assez surréaliste.
Bien
on
sûr.
En avait beaucoup parlé l'année dernière parce qu'on le voyait tout le temps à l'avant.
Tout à fait. Lui, il pensait être un grimpeur. Donc, l'ennemi du grimpeur, c'est le poids. On parle toujours du rapport poids-puissance. Donc, il essayait d'être mec pour grimper. Et en fait, quand ils lui ont fait passer des tests, ils ont dit, mais mon petit gars, t'es pas grimpeur. T'as des aptitudes, mais tu seras jamais au top dans les grandes étapes de montagne. Va en salle de muscu, prends de la masse et tu seras très bon sur les étapes puncher où tu passes bien les bosses.
Donc, il a pris des protéines, il passe bien les bosses.
Il a soulevé de la fonte aussi. C'est, attention, prendre 15 kilos, c'est, tu les prends pas comme ça non plus. Hein. Donc, il a du sac. Ouais.
Moi, je peux dire, j'ai pas forcé.
J'aurais dû préciser. Deux muscles, messieurs. Oui, vous, les 15 kilos de graisse, ça va assez vite. Hein. 10 jours et c'est bon. 1 kilo par jour. Mais lui, il a dû quand même soulever pas mal de fonte. Et là, une étape comme aujourd'hui, bah voilà, c'est le profil parfait pour lui. Il passe bien les bosses, il roule très fort.
Parce qu'il a pas perdu ça, GG. Parce qu'il a pas perdu sa capacité à bien passer les bosses. Alors, évidemment, pas l'école. Mais dans les bosses, il est costaud, quoi.
Fameux mur, là, de Pêche David, il le passe. On se dit, il va perdre beaucoup de temps. Non.
Il a quand même tenu tête. Enfin, ils ont tenu tête à Van Aert et Van Der Poel. Ouais. Qui n'ont jamais pu rentrer, quand même. Ils étaient très longtemps à 20-30 secondes. Il a fallu vraiment que Van Der Poel s'emploie pour sortir du deuxième groupe et se rapprocher pour finir à 8 secondes. Mais
est-ce qu'ils ont mal calculé? Est-ce qu'ils ont trop économisé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe, c'est quand même surprenant.
Dans l'attaque de Mathieu Van Der Poel dans le mur, on voit que personne ne peut y aller, en fait. Et chacun reste à sa place. Ça a roulé aussi vite devant que derrière. Pour moi, ils ont au départ un peu calculé. On est revenu très vite à une vingtaine de secondes. Et après, ils ont plafonné. Ils n'étaient pas capables d'accélérer. Et quand ça a pété dans le mur de Pêche David, personne n'a su faire la différence à part Mathieu Van Der Poel.
Est-ce qu'ils ont plafonné ou est-ce que des fois c'est ça, tu pars, t'as beaucoup de retard et quand tu te rapproches, quand t'arrives à 15-20 secondes, bah c'est là que tu commences à compter tes coups de pédale, tu dis ah, y a bien qui va prendre un relais un peu plus appuyé, on va rentrer, finalement ils se regardent. Après c'est facile à dire après coup, mais est-ce que Mathieu Van Der Poel il perd pas la course sur l'attaque de Quinn Simons? Parce que vu la cacahuète qu'il met dans le dernier mur, est-ce qu'il aurait pas dû suivre Quinn Simons
et le contrer
dans le mur? Après coup, c'est facile à dire. Il avait sûrement Van Aert, Dely, Axel Lorenz sur le palto. Mais peut-être qu'il perd la course ici. Alors, Quinn Simons après a explosé. Mais là, c'est peut-être les 7-8 secondes qui lui manquent à l'arrivée.
Mais rendons à César ce qu'appartient à César. Les deux devant, Schmidt.
Ah oui, bah, et alors, justement, je voulais en parler parce que Schmidt, c'est un peu le cocu de l'histoire. Aujourd'hui, il termine deuxième. Il s'est lancé. Il est parti à l'attaque dès le kilomètre zéro lui aussi.
D'autant
et au bout du compte, il n'a aucun laurier. Quoi. C'est terrible pour lui.
Ouais, mais il y en a un des deux, et c'est Abrahamsen. Abrahamsen, il a pris le risque de perdre pour pouvoir gagner l'étape. À 600 mètres, il n'a plus passé. Et là, tu as Mathieu Van Der Poel derrière. Ils les ont, les écarts.
Dans le direct, on a dit, c'est soit Van Der Poel, soit Abrahamsen.
Et Abrahamsen a dit, OK, je suis prêt à sacrifier l'étape et à me faire battre par Van Der Poel. Par contre, si toi, tu craques, c'est moi qui vais la gagner, c'est sûr. Et c'est compliqué comme situation. Ouais. Parce que tu te dis, si on se fait rattraper, de toute façon, avec Mathieu Van Der Poel, on est mort. Donc, Schmidt, lui, il a continué à rouler avec Abrahamsen dans le rondin. Et encore, il a eu du mal à le passer, Abrahamsen. Hein. Schmidt, il marchait vraiment costaud. Mais Abrahamsen a pris le risque de perdre pour pouvoir gagner gros.
Est-ce que Schmidt ne méritait pas plus le prix du combatif que Jonas Rickard l'autre jour?
Autant que Abrahamsen, mais Abrahamsen attaque le premier au kilomètre zéro et il gagne l'étape. Le combatif, c'est aussi ça. C'est-à-dire que il a fait de A à Z jusqu'à la fin. Il a conclu en victorieux. C'est-à-dire que il a tout, Abrahamsen. On peut pas le donner à quelqu'un d'autre qu'à Mauro Schmidt. Le plus triste dans l'histoire, c'est que Mauro Schmidt, il va faire deuxième d'une étape. On aurait pu en parler longtemps. Sauf qu'il fait deux d'une étape où il y a un Mathieu Van Der Poel incroyable qui fait un numéro et où Tadej Pogacar chute. Donc déjà on va avoir du mal à parler d'Abrahamsen et Schmidt terminé, tourner la page. On en parlera peut-être plus de ce tour. C'était son jour, il a loupé le coup. Il fallait prendre le risque, comme dit Jérôme, de perdre l'étape. À ce petit jeu-là, Abrahamsen, il a eu les couronnes, les gars.
Un dernier mot également sur la performance de Mathieu Van Der Poel. bien malheureux encore une fois, comme il l'a été à Châteauroux.
Avec Jonas Rickard, c'est ça. Ça fait deux fois quand même que.
C'est double Rickard, là, ouais.
Ouais, exactement.
Ça, c'est plutôt pour toi, ça.
Ça fait quand même deux fois qu'il passe tout près. Mais à un moment, on se dit peut-être que le calcul est pas très bon parce que l'énergie dépensée pour rien à l'arrivée.
Bah oui, mais enfin, ça, son tour s'interrompt quand même à partir de.
Voilà, là,
de
pendant
dimanche.
Oui, non, là, pendant trois jours.
Il y a une pause, imaginez le talent du garçon quand même. Il arrive dans un triptyque pyrénéen et lui, il dit bon, moi, maintenant, c'est trois jours tranquille. Parce que c'est ça, en plus. Lui, l'école, il va les monter. Dans le groupe Eto, il va récupérer quoi.
Ouais.
Bon, dans
oui, parce qu'il y en a d'autres qui vont morfler, mais lui, il va récupérer.
Ouais, allez. Alors, on en va en parler après, mais dans Striptique, il y a quand même le chrono. Ouais. Le chrono, oui. C'est une journée de repos pour ceux qui ne le font pas à fond, surtout Diborn. Ouais.
Mais alors, c'est comme Tadej Pogacar quand il chute, quand Mathieu Van Der Poel ne gagne pas, c'est pas grave, il est quand même formidable.
Bon, écoutons bien. Mathieu Van Der Poel, forcément déçu quand même aujourd'hui, comme il l'avait.
Qui lui est un gentleman.
Un gentleman cambrioleur. Mathieu Van Der Poel.
C'est dommage qu'il y ait encore deux coureurs qui restent à l'avant, mais enfin, à la fin, ouais, j'ai encore mis une bonne attaque à la dernière bosse, mais c'était pas assez pour gagner. Enfin, un tour qui me convient bien et je me sens bien aussi. Donc, ouais, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de chances qui restent. Donc, aujourd'hui, c'était une dernière et c'est pour ça que j'ai tout donné. Ouais, je pense que les gars à l'avant de la course étaient juste très très forts. Ouais, on a vraiment bien roulé avec notre groupe, mais ouais, on a deux qui restent à l'avant.
Voilà, déçu, Mathieu qui dit que c'était l'une des dernières chances d'aller remporter une étape. Il lui reste quand même quelques possibilités ou non?
Carcassonne dimanche. Il reste une étape à Pontarlier aussi en fin de tour.
La dernière.
Et puis les Champs-Élysées. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'au niveau du super combatif du tour, pour l'instant, il est largement en tête.
Plus beaucoup de suspense. Super combatif de la
première. Alors voilà, et Pierre Blouroux va douter de ça encore.
Non, mais attends.
Sandro Meurisse.
Non, j'attends le reste du Tour de France de Benilly.
Ah. On verra. On verra.
Un autre
talent, les blancs.
19h45. Ouais. On peut partir un peu, monsieur Leroux, ou vous voulez encore parler?
J'aimerais bien parler.
Ce soir, il est bavard, une vraie pie. Allez, on revient dans un instant. On s'intéresse au triptyque pyrénéen qui débute demain. Enfin, l'entrée en haute montagne. On s'est régalé l'autre jour dans le Massif central. Mais là, c'est encore un niveau au-dessus, avec notamment cette arrivée à Hautacam, au lieu du Tour de France. À tout de suite sur RMC. L'After Tour, toujours en direct de Toulouse.
RMC, 19h-20h, l'After Tour,
Christophe Cessieux.
Alors avant de nous intéresser à l'étape de demain et l'entrée dans les Pyrénées, un mot quand même des Français qui étaient dans les deux groupes d'échappés. Il y en avait un dans chaque groupe. Burgodo, Total Energy dans le premier groupe, qui malheureusement a crampé à quelques kilomètres de l'arrivée. Et Axel Laurens, dont on ne parle pas beaucoup depuis le départ de ce tour, il est pourtant sans doute le coureur de la formation Ineos.
Total Energy aussi, hein. Ça fait deux de la même équipe.
Ah, ça y est, c'est
mais, non, on avait 10 coureurs et deux Français, il y avait 20% de chance d'aller chercher la victoire.
Ouais, mais
là, l'échappée, c'était à la pédale, donc déjà, il fallait la prendre. Enfin, là, que ce soit la première, où il y a Mathieu Burgodo ou Axel Laurens derrière.
Très bien couru, hein.
Et après, là, ce coup-ci, ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont vraiment sauté à la pédale. Bah, là, s'ils se tombent sur plus fort qu'eux, je veux dire, ils n'ont pas raté le coup. Ensuite, c'est à la cuisse que ça s'est fait. Et là, Mathieu Burgodo, notamment, a crampé. On a dit, ça a roulé tellement vite. C'est dur de boire, de manger, il fait chaud. Donc, quand ça bagarre comme ça toute la journée, que tu arrives dans un talus où tu as passé toute la journée sur des gros braquets, d'un coup, tu arrives dans une cacahuète à 25%. Il faut mettre le petit plateau, il faut croiser la chaîne tout à gauche. Là, d'un coup, tu as les muscles qui peuvent coincer un peu et tu chopes la crampe. Ils ont très bien couru.
Très joli bruitage.
Ils ont très bien couru, mais à la pédale, ils se sont battus par plus fort.
Ouais, et puis on parle de Français, et donc si on fait ce calcul-là, ils étaient aussi en supériorité numérique avec les Belges. Il y avait deux Belges dans le contre, il y avait deux Français, un devant, un derrière, c'est tout. Donc on peut juste saluer que les Français sont, quand le tour et l'étape se jouent à très haut niveau, ils sont là. Après,
ils font la bagarre, ouais.
Après, c'est le plus fort qui gagne. Et à ce petit jeu-là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Même Mathieu Van Der Poel est venu se casser les dents sur Abrahamsen et Schmidt. Donc, grand coup de chapeau à eux. On ne peut pas les blâmer parce qu'ils n'ont pas gagné, parce qu'ils ont tout fait pour gagner.
On peut blâmer certaines équipes françaises.
Ah, par contre, Decathlon, AG2R et Groupama. Mais je crois que notre ami Marco s'en est occupé personnellement. Ils sont pas là.
J'ai senti que ça montait quand même petit à petit. Quand il a compris qu'ils n'étaient plus dans le coup, il est parti du camion. Je pense qu'il est passé quelques coups de fil.
Une petite soufflante. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Et Marc l'a dit, il faut avoir la bonne échappée, le bon jour, le bon coureur, le bon timing. Mathieu Burgodeau, par exemple, il avait tout ça aujourd'hui, sauf qu'il avait des mecs plus forts que lui. Bien, donc ensuite, être... aussi que tes compagnons d'échappée sont un peu
mais
moins forts
que toi.
Mais
ça risque d'être le problème des Français sur ce Tour de France. C'est, comme on le disait, sur le sprint, sur les échappées, il y aura sans doute toujours un peu...
Moi, j'ai vu une belle image aujourd'hui. J'ai vu deux choses qui m'intéressent. Oui. Une pour aujourd'hui, une pour demain. Kevin Vauclin, grand coup de chapeau. Il arrive avec les meilleurs au pied du taquet. Puis il a mis une sacoche et il aurait attaqué après. Ouais. Donc là, très offensif. Et un autre coureur qu'il faudra surveiller demain, qui a fait un très beau début de course, d'étape aujourd'hui, qui a loupé le coup et qui a fini groupé tôt pour mieux repartir demain, c'est Wayne Kostiou. Wayne Kostiou, il a levé le pied aujourd'hui, tranquille, comme Lenny Martinez, et on les reverra demain. Et on essaiera tous les jours.
Alors, demain... Demain, c'est l'entrée dans les Pyrénées, évidemment. On y est, enfin, la haute montagne. Alors, je sais qu'on n'est pas dans les Alpes, mais quand même, les Pyrénées.
Ouais, hein. Moi, j'aime pas ce monsieur. Il me fait peur.
Il est pentu.
Tu vois, c'est toi qui nous fais peur.
Je sais.
Tu préfères ces Alpes, tu sais.
Exactement.
Mais il va mieux quand même. Il est enfin
il est en pleine forme. Là,
ah, bah oui, bah, il a bien dormi, il faut dire.
Non, mais je suis très bien.
Entre 5h et 7h, il a dormi.
Comment dirait triptyque Ben Ely, par exemple?
Ah, triptyque.
Triptyque.
Not hectic, not haptic, not lactic, triptyque.
On peut avoir l'étape de demain?
Oui, non, les trois. Parce que là, vous avez trois étapes pour le prix d'une.
Ah, très bien. Trois étapes, le chrono, une étape complète.
Ça va être
complète.
Une synthèse. Allez.
Oui, on va faire vite. Donc, première étape de montagne demain, enfin de haute montagne plutôt dans les Pyrénées, au Chautacam. La première partie de l'étape assez plate, ça c'est pas facile par contre pour un coureur comme
125 km.
Exactement, 125 km avant d'arriver au pied du col du Soulor. Ça c'est pas facile pour les échappés. Je pense notamment à Lenny Martinez. S'il veut faire le plein point, par exemple.
Il en parlait d'ailleurs tout à l'heure.
Ouais, c'est un peu la loterie pour prendre ce coup-là. Et on aura, bien sûr, l'arrivée à Otakam, qui sera le premier col hors catégorie de ce tour. Là, on devrait avoir la première grosse bagarre entre les favoris. GG, toi, tu parlais de deux courses en une. J'y crois pas trop. Moi, je pense vraiment que
tu as senti, tu me crois jamais.
Ouais, exactement. Je te crois jamais. Mais on va voir si Tadej Pogacar veut prendre sa revanche sur Jonas Vingegaard demain à Otakam. Et ensuite, on aura le chrono. GG, tu veux nous en parler, c'est toi le spécialiste.
Eh 11 écoute, km. Le chrono, alors là, c'est départ à fond.
Voilà, t'accélères au milieu.
Et tu finis au sprint.
Je me suis engueulé 25 fois avec mon père pour cette expression-là. 11 km entre Loudenvielle et Peyragudes. Il y a 3-4 km pour se mettre un peu en route, plutôt vallonné. Je ne pense pas qu'il y aura des changements de vélo, mais j'ai quand même vu une photo de Jonas Vingegaard à l'étape de repos avec un vélo de chrono. Donc, est-ce qu'il va faire tout le col avec le vélo de chrono ou pas? Bref, les 7 derniers kilomètres très durs et la rampe finale avec des passages à 16% pour l'arrivée à Peyragudes. Donc, vraiment très, très compliqué. Ce chrono, et là, on sera 48 heures après la chute de Tadej Pogacar. On va voir dans quel état sera le Slovène. Et le dernier jour, Pau, Luchon, Super Bagnères.
La fameuse bataille de Pau Luchon.
Exactement. C'est la classique avec le col du Tourmalet, Aspin, Peyressourde et Luchon, Super Bagnères. Ça, c'est vraiment, on l'a déjà fait. Hein, GG Luchon, Super Bagnères.
Alors, Luchon,
déjà
Super Bagnères,
tu as couru,
je rappelle.
Ouais,
j'ai fait dans le Tour de France, il y a 36 ans.
Donc ça, vraiment, grosse étape de montagne. Deux cols hors catégorie, un deuxième catégorie et bien sûr le col de Peyressourde en première catégorie. Donc pour le plein de points.
Combien de points là ce jour-là à prendre?
40, 50, 55. Pas mal, t'as voulu piéger. J'ai bossé, monsieur Pierre-Yves Leroux.
Le petit détail pour le spécialiste de chrono que tu es, Jérôme, est-ce que tu penses que les coureurs vont utiliser au moins un prolongateur?
Je pense.
Alors Pogacar va être gêné.
Je pense,
avec son coude.
Je pense qu'ils vont utiliser un prolongateur. J'ai vu passer des photos il y a déjà quelques jours de Tadej Pogacar, notamment.
J'ai vu le vélo équipé. Le traditionnel équipé.
Voilà. Donc je pense qu'il y aura, notamment pour les 3-4 premiers kilomètres, les prolongateurs. Après, quand t'es dans le dur, t'as plus vraiment besoin d'être, enfin, quand la pente est raide, t'as plus vraiment besoin d'être sur tes prolongateurs. Mais par contre, pour les 3-4 premiers kilomètres, là, ça peut être intéressant et ça peut être très, très important.
Un petit mot sur les vainqueurs à Otakam. Le tour a terminé à 7 reprises là-haut, au-dessus de Lourdes. Le dernier à s'être imposé se nommait Jonas Vingegaard. C'était en 2022. Auparavant, en 2014, Vincenzo Nibali, Cadel Evans en 2008, Lance Armstrong en 2000, Bjarne Norris en 96 et un Français,
Luc
Leblanc. Du club blanc. Il n'y a que des cadors. Ça s'est toujours terminé par des coureurs qui jouaient le classement général.
Bien sûr, mais quand tu arrives sur des cols comme Otakam, le Tourmalet, tu n'as que des cadors qui inscrivent leur nom là-haut. Là, surtout la première étape de montagne, on va voir. On a été habitué, monsieur Pierre-Yves a parlé du dictateur Lance Armstrong qui avait l'habitude de taper un grand coup de poing sur la table.
Contador faisait pareil.
Contador aussi. Froome aussi faisait ça. Voilà. On va voir. Tadej Pogacar a chuté, mais on va voir s'il écrase le tour demain.
On pourra parler de Froome demain, il y a des choses à raconter sur le.
Ah oui, sur Froome, peut-être regarder des choses.
Voilà, ça sent pas très bon.
Il est dans l'actu en ce moment.
Très bien, vous avez été parfait. Bonne émission ce soir, je vais vous mettre une bonne note à vous aussi.
Ah, c'est gentil.
Merci, on le prend. Vous le prenez.
Oui, on démarre demain.
C'est tellement rare.
On est reconduit demain.
Vous êtes reconduit demain pour 3 jours. Après, on verra à la fin des Pyrénées comment vous comportez.
On fait cryptique.
Le cryptique. Très bien, dans un instant, c'est l'after avec Nicolas Jamin, l'after foot et l'after tour revient demain, évidemment, pour cette entrée dans les Pyrénées. Il y aura auparavant.
On fait l'intégral tour avant.
Oui, normalement.
Non, je pensais qu'on passait directement à l'after.
À partir de 14h, comme tous les jours, même à partir de 13h le dimanche, mais le dimanche cette année, il n'y a pas de grandes étapes quand même, même si c'était pas mal quand même.
On fasse un débat
en direction de Châteauroux, il faut faire un débat. Bonne soirée et à demain 14h, donc pour la 12e étape du Tour de France, l'entrée dans les Pyrénées, on s'en réjouit d'avance. À demain, ciao.
RMC, l'After Tour.